Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et cette année 2019 démarre en fanfare dans les librairies avec la sortie vendredi du 7e roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, un pur condensé de l'œuvre de l'auteur de Soumission, Bernard Lehulat, lu et rencontré l'écrivain Benoît Dutertre, l'un des proches de Houellebecq. Nous vous offrirons des exemplaires de Sérotonine dans cette émission. Au cinéma, mercredi, première vacances, une comédie française réussie pour bien commencer l'année, nous dira Stéphane Boutsock. Et puis 2019 sera riche en événements du côté de la musique classique, avec notamment les 350 ans de l'Opéra de Paris et le bicentenaire du compositeur Jacques Offenbach, c'est tout ce que j'aime. Charlotte Latour vous ouvrira son calendrier.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour Bernard Lehulat.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonne année, une année 2019 qui démarre donc en fanfare en librairie, oui, avec la parution vendredi du 7e roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, 4 ans après Soumission, qui avait créé la polémique. L'écrivain imaginait l'élection à l'Élysée d'un président musulman, et terrible hasard du calendrier, le livre était sorti le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo.
Oui, alors rien d'aussi sulfureux dans Sérotonine, mais un roman houellebecquien en diable, un pur condensé de l'œuvre de notre troupie nationale. Il met en scène Florent-Claude Labrouste, 46 ans, employé du ministère de l'Agriculture, spécialiste de la sauvegarde des fromages normands. Le détail aura son importance. Fumeur compulsif, gros buveur, mais vie sexuelle et sentimentale en pleine débandade. Bref, un grand dépressif devant l'éternel, mais qui se soigne à dose quotidienne de sérotonine, l'hormone du bonheur. Houellebecq, mieux que personne, s'est ainsi raconté. Le mal occidental, en pleine, l'homme hein, bien sûr, occidental, en pleine déroute, et ce depuis son tout premier roman, extension du domaine de la lutte, qui était déjà un coup de maître. C'est ce que souligne l'un de ses plus fins lecteurs et de ses plus proches amis, l'écrivain Benoît Dutertre.
Et c'est ce même personnage, enfin c'est un autre, mais c'est aussi ce type qui fait des missions pour les services de l'agriculture, qui dans Extension avait des aspirations sexuelles totalement frustrées, inaccomplies. Ce même personnage, approchant la cinquantaine, fait une espèce de bilan, de retour sur lui-même. Il y a donc pour moi un lien entre ces deux livres, ces deux grands livres, et je pense que c'est un grand Houellebecq, parce que c'est un immense monologue, comme ça, avec des phrases très longues parfois, qui durent parfois une page, un paragraphe, d'un type qui se retourne sur son passé, fait le bilan, un bilan évidemment très négatif à la Houellebecq, mais très drôle en même temps, de la vanité de toute chose.
Je n'étais décidément qu'une lopette, une triste et insignifiante lopette, vieillissante de surcroît, lâche le narrateur de Sérotonine avec le sens de la provocation, l'art de dynamiter le politiquement correct et toutes les milices du langage qu'affectionne tant Houellebecq.
Alors qu'arrive-t-il à son personnage, Florent-Claude Labrouste ?
Alors, il quitte sa dernière compagne, Yuzu, une japonaise au talent sexuel aussi multiple que ses infidélités, et il entame un retour sur le passé qui le conduit en Normandie. Là, il a connu autrefois le grand amour avec la belle et douce Camille, jeune ingénieur agronome, sublime personnage féminin, l'un des plus beaux jamais imaginés par Houellebecq, un amour minablement perdu par Florent-Claude et un chagrin qui ne cesse de le hanter. Houellebecq prouve une nouvelle fois, sous ses dehors cyniques, qu'il est un grand auteur romantique. Le monde extérieur, écrit-il, était dur, impitoyable aux faibles, il ne tenait presque jamais ses promesses, et l'amour restait la seule chose en laquelle on puisse encore, peut-être, avoir foi.
Alors ce monde impitoyable aux faibles, Michel Houellebecq le raconte là aussi une fois de plus à la perfection.
Alors on connaît son aversion pour l'économie libérale, la mondialisation, la technocratie, ses ravages sur les populations et les territoires. En Normandie, son narrateur Florent-Claude retrouve son plus vieil ami Émeric Darcourt, gentleman farmer, héritier d'une grande famille française, ruiné par les quotas laitiers, les taxes et les directives européennes. Et avec d'autres éleveurs, Émeric dresse un barrage sur l'autoroute de Normandie, une scène évidemment qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher des blocages des Gilets jaunes et qui se terminera tragiquement. Benoît Dutertre.
Parce que c'est un livre qui est quand même, politiquement, je dirais, qui a un sens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on est beaucoup à éprouver, je dirais peut-être pas de la nostalgie, mais en tout cas, quelque chose qui se passe chez nous, Français, par rapport au souvenir des Trente Glorieuses, d'un pays prospère, en pleine ascension, etc. Et tout d'un coup, le sentiment que tout se délite dans la mondialisation. Et il parle beaucoup de ça dans le livre. J'aime beaucoup cette phrase aussi. Le troisième millénaire venait de commencer, et c'était peut-être pour l'Occident, antérieurement qualifié de judéo-chrétien, le millénaire de trop. Voilà, en France, on a parfois l'impression d'être au-delà de l'histoire, dans la fin de quelque chose. Et tout ça est évidemment omniprésent et de façon tragique à travers ce sort des agriculteurs qui est un peu au cœur de la réflexion de Michel dans ce livre.
Houellebecq, prodigieux renifleur de l'air du temps donc, mais aussi écrivain profondément humaniste, d'Emeric, son paysan aristocrate, désespéré et rebelle, il fait l'une des figures les plus bouleversantes de son œuvre, un portrait inoubliable dont l'ombre, comme celle de la douce Camille, va planer sur tout Sérotonine.
Alors, pas d'Houellebecq sans sexe, hein. Il y en a. Il y en a, mais sans excès.
Oui, c'est aussi votre avis, Yves ?
Oui, oui.
Ben oui, parce que le principal effet...
On voudrait un peu plus.
Oui, comme vous y allez. Ben parce que le principal effet secondaire de cette fameuse sérotonine, l'antidépresseur utilisé par Florent Claude, c'est la disparition du désir et un gros coup de boue sur la libido, ce qui n'empêche pas Houellebecq, évidemment, de truffer son texte de quelques scènes de fellation, de masturbation, voire de zoophilie, de pédophilie, mais sans conviction, comme s'il pratiquait un exercice imposé ou remplissait une espèce de cahier des charges. Bon, franchement, ça n'est pas le plus réussi du roman, mais ça n'est pas bien grave non plus. La preuve, je sais, Yves, que comme moi et comme Benoît Duteurtre, vous avez lu d'une traite Sérotonine.
Quand je commence à Houellebecq, je ne peux pas m'arrêter jusqu'à la dernière page. Et c'est assez rare dans le roman français contemporain où vous avez souvent des sophistications d'écriture qui sont sans doute très intéressantes en théorie, mais qui sont, peuvent être un petit peu rasoirs. Là, on se laisse porter par une phrase, une prose, une voix tellement naturelle du début jusqu'à la fin. Et tout ça crée une espèce de sentiment de distance souvent comique. Moi, je ris énormément quand je le lis. Par exemple, dans ce livre, le personnage, il y a des petites sautes du notamment contre les bobos. Paris, cette ville infestée de bourgeois éco-responsables, me répugnait. J'étais peut-être un bourgeois moi aussi, mais je n'étais pas éco-responsable. Je roulais en 4x4 diesel. Je n'aurais peut-être pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais au moins j'aurais contribué à détruire la planète. Alors tout ça est plein d'ironie, de recul. Mais Houellebecq, lui qui est un grand écrivain, partage à la fois la sincérité de son personnage, mais il a l'art de nous faire sentir une légère distance qui produit l'effet comique. Et c'est ça le style. Enfin, c'est pas autre chose.
Mais voilà, exactement, c'est ça le style, et non pas des mots ou des phrases ronflantes. Sérotonine ou la possibilité de l'amour. Le septième roman d'un Michel Houellebecq, lucide, corrosif, drôle comme toujours, et surtout émouvant comme il ne l'a jamais été. J'ajoute que Benoît Duteurtre, qu'on a écouté parler très bien du style et de l'œuvre de Michel Houellebecq, son ami, a publié, lui, à l'automne dernier, son dernier livre, ça n'était pas triste non plus, non. En marche chez Gallimard.
Alors, nous vous offrons en avant-première le nouveau roman de Michel Houellebecq, mais oui, qui paraît vendredi chez Flammarion, si vous répondez à la question que vous pose immédiatement Bernard.
Alors, je pense qu'on l'a pas mal répété. Voici la question, quel est le double prénom du narrateur de Sérotonine ? Un indice, Florent Claude ou Laurent Paul ?
Très bien. Vous nous appelez au 3210, on marque une courte pause avant de prendre la direction des salles de cinéma en compagnie de Stéphane Boutsock. Michel Houellebecq qui vient donc d'être promu dans l'ordre de la Légion d'honneur. Oui. C'est ce que nous vous annoncions ce matin dans nos différentes éditions.
Ne lui manque plus que l'Académie française, là, comme il est parti.
En effet, il serait bien avec son petit sabre. Allez, à tout de suite, son épée d'académiste.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et une nouvelle année commence aussi pour nos écrans de cinéma. Les 9 premiers films de 2019 sortent aujourd'hui en salle. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver. Nous allons en passer quelques-uns en revue dans un instant. Mais pour commencer, on fait le bilan de ce que nos auditeurs, pardonnez-moi, sont allés voir durant les fêtes.
Si je vous dis que le vainqueur est un petit blondinet moustachu, râleur, courageux, vous me dites...
Ça me fait plaisir, c'est Astérix.
Eh ben oui. Astérix, le secret de la potion magique d'Alexandre Astier et Louis Clichy, grand vainqueur de la fin 2018, près de 2 800 000 entrées en un mois à l'affiche. Les 3 millions du premier volet, c'était en 2014, seront au moins égalés. Ravi vraiment pour le parcours de ce film RTL. Belle performance d'Aquaman, le roi de l'Atlantide. Super-héros de la galaxie DC Comics, donc alliés de Superman, Batman et autres Wonder Woman. Déjà 2 millions de spectateurs dans les salles, près d'1 million pour le retour de Mary Poppins. Mm-hmm. Et puis la belle performance, c'était la semaine dernière. Mia et le lion blanc, ce joli conte africain de Gilles de Maistre, racontant l'amitié entre une petite fille et un bébé fauve. Plus de 500 000 entrées déjà. L'Empereur de Paris a largement dépassé le demi-million. Et Sauver ou Périr, avec Pierre Niney, c'est un des succès aussi de la fin de l'année. 900 000 entrées.
Place donc aux nouveautés de ce mercredi. mercredi 2 janvier. D'abord, un coup de cœur pour une comédie française. Première vacances de Patrick Cassir.
C'est, paraît-il, le moment critique pour un nouveau couple. Les premiers congés en tête-à-tête où l'on découvre l'autre, ses bonnes comme ses mauvaises habitudes. Marion et Ben viennent de faire connaissance sur un site de rencontre. Coup de foudre immédiat. Écoute tête, on part tout de suite en duo à la découverte de la Bulgarie. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Et là où ça va se gâter, c'est que Marion aime plutôt, voyez-vous, le côté improvisé oui. chez l'habitant, alors que Ben, lui, bah, il est plutôt luxe et beaux hôtels. Extrait.
C'est quoi ça?
Qu'est-ce que
c'est? Putain, il y a un rat! Ah, j'ai marché sur un rat mort, là! Fais chier, là! C'est bon, allez, stop, là!
Mais ça va pas?
Non!
Toi, faire la gueule, excuse-moi!
Je viens de marcher sur un rat mort!
Oui, excuse-moi. Et alors? Je te rappelle que c'est ta faute si on est parti de chez Goukou, hein! C'était
Pardon
un super plan!
Non, 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 Marion, c'était pas un super plan.
Bah,
excuse-moi,
si.
C'était dégueulasse, c'était moche, la chambre, elle était horrible. Je suis sûr qu'elle a enterré tous les gars de sa famille là-bas, là. Excuse-moi, la plage, là, un ponton juste derrière une autoroute, c'est pas ça pour moi, les vacances. Non, les vacances, c'est au minimum déjà un peu de sable propre, ok, et une eau qui ressemble pas à du coca.
Bah, moi, au moins, je fais pas caca dans le jardin des gens.
Je ne peux pas chier derrière un rideau, est-ce que c'est clair, ça? Voilà, j'étais à deux doigts de l'occlusion intestinale.
Mais Ben, ouais. C'est la vie, le caca.
Marion, s'il te plaît, on se connaît pas. Tu vois, c'est nos premières vacances, j'ai pas envie qu'on parle de caca.
Ok.
Garde ton caca, je garde le mien.
Camille Chameau, ouais. Jonathan Cohen forment le couple improbable et formidable de premières vacances, entouré notamment de Camille Cotin, Vincent Dedienne et Jérémy Elkaïm. Très bien écrit, cruel, tendre. Un petit coup de mou dans le dernier tiers, mais c'est pas grave. C'est donc la première bonne comédie française de l'année.
Je tiens à rétablir l'honneur du tourisme bulgare.
Bulgare, absolument.
Absolument.
Alors,
et son yaourt,
bien sûr. Je vous conseille la plage où il se baigne, vous me racontez. Quand même.
Très bien. Comédie encore avec une bonne dose de polar dans le film Un beau voyou de Lucas Bernard.
L'histoire d'un policier tout proche de la retraite. Il est joué par Charles Berling, et il va se passionner pour une dernière affaire. Un cambrioleur dérobe des tableaux, mais alors non pas pour leur valeur, mais plutôt pour leur esthétique. Un jeu de chat et de souris commence sur les toits de Paris, alors que la fille d'un restaurateur de tableaux entame une histoire d'amour avec un mystérieux jeune homme, peut-être un peu trop discret, un peu trop poli, pour être tout à fait honnête. Extrait.
Alors, je ne veux pas être tatillon, mais nous ne sommes pas en France, vous ne pouvez pas m'arrêter.
Ah non, mais là je suis à la retraite, mon vieux. Je suis ici pour le climat.
Et la retraite, d'ailleurs, ça va?
Pourquoi tout le monde me demande ça? Ouais, c'est pas mal. C'est le rêve de tout homme. Bon, alors après, il n'y a plus grand-chose à espérer.
Notez que vous pourriez vous payer une danseuse. Je sais que vous avez un peu de blé.
Précisément, je pense acheter un tableau, mais je sais pas lequel. J'hésite entre plusieurs. Tantôt, je me dis que ça irait pas chez moi. Tantôt, je me dis que c'est mon appartement qui irait pas autour.
Les enfants, ils viennent vous voir?
Ils viendront. Je vous signale aimablement qu'avec l'Europe, vos empreintes digitales apparaîtront partout. Restez sage.
Je me ferai pas arrêter une deuxième fois.
Troisième fois. Avec l'incendie du lycée, ça ferait trois. Réfléchissez.
Charles Berling, donc, et Swann Arlot, rappelez-vous, c'est le César 2018 du meilleur comédien pour Petit Paysan.
Ah,
duo,
oui.
Ah oui, formidable comédien. Duo malicieux, attachant dans ce film épatant, lui aussi très bien écrit. Un beau voyou, donc, à découvrir aujourd'hui au cinéma.
Quelques autres sorties en bref.
Undercover, une histoire vraie, tirée donc de faits réels, hein, c'est écrit dessus. L'épopée d'un ado de 15 ans à Détroit dans les années 80, gamin devenu indique pour le FBI avant de basculer dans le camp des trafiquants de crack et de finir abandonné de tous. C'est ultra classique sur la trame, avec notamment Matthew McConaughey, formidablement réalisé par Yann Demange, réalisateur français qui est parti faire carrière à Hollywood et dont le nom a circulé récemment pour reprendre la marque James Bond. C'est pas rien. Ouais. À l'affiche aussi, Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis, film fantastique qui nous plonge dans un monde miniature habité par des poupées style Big Jim ou Barbie, monde fabriqué par un homme qui a été sauvagement agressé, qui est devenu handicapé et amnésique et qui tente de reconstruire son passé tout en affrontant son futur en donnant vie à cet univers parallèle. C'est un conte sur la renaissance, la seconde chance, magnifiquement interprété par Steve Carell et illustré par les très beaux effets spéciaux. C'est la spécialité notamment de Zemeckis, créateur, on le rappelle quand même, de Forrest Gump et de la saga Retour vers le futur.
Autre film à découvrir, Stéphane, une femme d'exception de l'américaine Mimi Leder.
C'est un biopic, donc une biographie filmée du destin extraordinaire de Ruth Bader Ginsburg, quasi inconnue en France, mais icône du féminisme et de la politique de l'autre côté de l'Atlantique. Femme devenue avocate dans la société très machiste des années 60, puis magistrate, puis juge à la Cour suprême depuis 93, figure fondatrice donc de la société US contemporaine, RBJ comme on la surnomme, est interprétée par Felicity Jones, actrice anglaise qui alterne les films d'auteur et les grosses productions comme Rogue One.
Incarner quelqu'un comme Ruth Bader Ginsburg est une grande responsabilité que vous ne pouvez pas prendre à la légère. Il me fallait rendre justice à cette véritable icône que j'admire profondément. Et en un sens, la seule personne à véritablement pouvoir jouer Ruth Bader Ginsburg, c'est elle-même. Et c'était un sacré défi à relever. En fait, j'avais besoin de la connaître plus personnellement. Ça m'avait beaucoup aidé pour le rôle de Jane Aucoin, de dîner, de passer du temps avec elle. Et de la même manière, avec Ruth, nous avons pris quelques cafés. Elle m'a montré des photos de sa famille et de ses amis chez elle, dans son appartement. C'est dans ces moments que j'ai fait connaissance avec la femme cachée derrière l'icône.
Felicity Jones dans Une femme d'exception, à voir donc ceux de janvier. Et puis si vous aimez le film d'animation, notamment oui, ceux du maître japonais Hayao Miyazaki, eh bien je vous recommande un passionnant documentaire, ça s'appelle Never Ending Man, et il revient sur l'œuvre et la vie du créateur de Mon voisin Totoro, du Voyage de Chihiro, ou encore du Château dans le ciel. Miyazaki avait annoncé sa retraite en 2014. La bonne nouvelle, c'est qu'il travaille sur un nouveau long métrage d'animation.
Il a plus d'âge.
Ah si, il est pas si vieux que ça.
Excusez-moi.
80 ans.
Parfait. Alors, en ce début d'année, Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous passez en revue les événements classiques des mois à venir. Le monde de la musique classique nous réserve de très belles surprises dans les semaines qui viennent.
Absolument. Déjà 2019, c'est l'année où l'Opéra de Paris fête ses 350 ans. Voilà une institution créée par le roi le plus impliqué dans la vie culturelle de la France, Louis XIV. L'opéra a occupé 15 salles différentes de Paris et de sa région avant de s'établir en 1875 au sein du Palais Garnier, au cœur du 9e arrondissement de la capitale. Aujourd'hui, on appelle Opéra de Paris à la fois l'Opéra Garnier, où se jouent les spectacles de danse et les opéras qui ne nécessitent que de petits orchestres, et l'Opéra Bastille, où l'on joue les spectacles d'art lyrique de grande ampleur, deux salles pour un même nom. Opéra d'Hector Berlioz. L'année lyrique s'ouvre sur cette œuvre colossale inspirée de l'Énéide de Virgile. 5h10 de spectacle, deux entractes compris pour retracer la guerre de Troie avec la belle Stéphanie d'Oustrac en Cassandre sous la direction de Philippe Jordan. Il sera joué à partir du 28 janvier à l'Opéra Bastille. Je vous rappelle que c'est quand même l'une des plus grandes salles d'art lyrique au monde, hein, avec ses 2700 places, conçues par Carlos Hoth en 1989. 1989-2019, bah oui, forcément, ça veut dire que Bastille fête ses 30 ans, double anniversaire donc à l'Opéra. D'ailleurs, les Troyens avaient inauguré la toute première saison lyrique de l'Opéra Bastille à sa création. Faisant bien les choses, 2019 est aussi l'année où l'on célèbre les 150 ans de la mort de Berlioz. Peut-être même le compositeur isérois fera-t-il son entrée au Panthéon cette année.
Alors Berlioz,
l'affaire est à suivre,
bah oui,
bien sûr.
Berlioz n'est pas le seul compositeur à l'honneur, Charlotte. Cette année, il y a les 200 ans de la naissance d'Offenbach.
Oui, compositeur né en Allemagne, il fit carrière et fut adulé à Paris. Il devint le roi de l'opéra bouffe avec La Belle Hélène ou encore La Vie parisienne. Alors les albums reprenant ses œuvres seront nombreux en 2019, c'est vrai. Mais il y en a un qui va mériter toute notre attention, c'est celui du jeune prodige du violoncelle, Edgar Moreau. Il y interprète le concerto militaire de Jacques Offenbach, œuvre peu donnée de ce musicien qui, on l'oublie trop souvent, était lui-même un excellent violoncelliste, sorti prévu mi-février. Thank you.
2019 sera aussi une année féminine grâce à deux jeunes femmes aussi engagées sur scène que dans leur carrière, deux sopranos.
Deux sopranos, oui. Julie Fuchs, déjà 34 ans, et un deuxième album récital en perspective. Il sort le mois prochain, il s'appelle Mademoiselle. Son programme, la condition de la femme dans l'opéra, son émancipation au travers de différents rôles, 10 portraits de femmes incarnés avec justesse par la chanteuse française qui a elle-même connu des déboires il y a quelques mois quand un rôle sur scène lui a été retiré au moment où la production a appris qu'elle était enceinte. Comme quoi, il reste encore quelques efforts à faire. Ouais. Voici Julie Fuchs dans un de ses rôles favoris, la fille du régiment de Donizetti. Les femmes, encore et toujours, avec Emok Barat, autre soprano hongroise. Elle est âgée de 33 ans. Son nouvel album, Voglio Cantare, Je veux chanter, est consacré à Barbara Strozzi, femme vénitienne du XVIIe siècle, l'une des premières à vivre de son métier de chanteuse et surtout de compositrice, chose rarissime à l'époque. Emok Barat se félicite de mettre en avant une personnalité avant-gardiste dans son premier récital baroque, à paraître chez Erato dans deux semaines. On l'écoute dans La Résurrection de Handel. Vous souhaitez une belle année musicale à tous.
Merci beaucoup, Charlotte.
Merci. Ça part pas mal.
Oui, dans bien. Un instant, on va vous donner des cadeaux et un cadeau formidable, en l'occurrence le dernier Welbeck. Restez avec nous.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Le livre sort vendredi chez Flammarion, mais vous l'aurez gagné avant si vous nous avez appelé au 3210. Il s'agit de Sérotonine, le dernier Welbeck. Et la question qui vous était posée par Bernard est la suivante. Comment s'appelle son héros ? Florent Claude ou Laurent Paul, avez-vous dit?
Eh bien, oui.
Prononcé comme ça,
vous. C'est plutôt pour le féminin, mais bon. Ah oui, eh bien, il s'agit de Florent Claude, un double prénom que son narrateur déteste absolument.
Oui, ça fait les premières pages du livre, oui. C'est assez amusant. Merci beaucoup. Alors, demain, nous recevons Éric-Emmanuel Schmitt, oui. Je crois que c'est important de le préciser.
Pour son nouveau livre, là aussi, qui paraît cette semaine.
Voilà. Merci à toute l'équipe et on retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour, Julien.
Merci, les infos.
Vous écoutez RTL.